Eh bien, merci pour cette présentation, mais également la culture occupe une place importante dans l'émission Akodi et pour preuve, Ayo dans Culture Afrique et nous dit que la culture africaine est toujours la base de ce qui fait le peuple. C'est à travers Culture Afrique, Ayo propose de prolonger, de plonger au cœur des racines de notre terre-mère. Ayo, cette semaine, tu nous amènes vers où?
Cette semaine, nous allons au Burkina Faso qui rencontre en ce moment, on l'a dit tout à l'heure, un problème social dû à la mort suspecte d'un étudiant. Donc nous allons donc découvrir ensemble le fondement de ce peuple aux multiples ethnies.
On t'écoute.
On se demande donc si c'est un peuple ou si ce sont des ethnies. En tout cas, ils sont une soixantaine à se partager le territoire du Burkina Faso. Mossi, Bobo, Peul, Lobi et le Lobi sont arrivés ici au fil des siècles pour des raisons très différentes. Chaque peuple a sa structure, sa hiérarchie ou son absence de hiérarchie, ses traditions et ses modes de reconnaissance. Au-delà des rites, coutumes et croyances, ainsi que des différences vestimentaires, beaucoup d'ethnies ont pratiqué et pratiquent encore des sacrifications. Ces cicatrices ornementales identifient clairement un individu et avaient sans doute pour rôle d'interdire de livrer combat contre un frère. L'organisation sociale, l'agencement de la concession et l'architecture varient sensiblement suivant que l'on est Mossi, Peul ou Lobi. Au total, une soixantaine de peuples vivent en paix au Burkina Faso et utilisent comme cime la parenté à la plaisanterie. Les grands et puissants royaumes, à travers leurs conquêtes et vassalisations, ont forgé le paysage ethnique que connaît le Burkina aujourd'hui. La tradition est encore essentiellement orale. La musique, djembé et balafon, et la danse jouent un rôle primordial dans la vie africaine. Les objets d'art sont présents en grande quantité. Les objets en bronze obtenus grâce à la technique de la cire perdue, la vannerie, les batiks, la poterie, les objets en cuir et de peau, les objets de cuir pardon et de peau, la sculpture sur bois méritent une grande attention. Malgré une avancée indéniable du modernisme, le Burkina a su garder le culte de l'utilisation des articles traditionnels grâce à tous ces artisans qui, de génération en génération, perpétuent un artisanat qui fait la richesse et de la culture de ce pays. Ainsi, nombreux sont les potiers, vanniers, fondeurs d'articles ménagers et de cuisine qui fournissent au Burkina aujourd'hui des pièces utilisées chaque jour par les femmes burkinabées qui pourraient pourtant être classées pour certaines au rang d'œuvres d'art.
Ah!
On est libéré, on est content. C'est Monsieur Fodébaro qui nous le dit sur les ondes 91.5, la radio plurielle. Nos invités de la semaine, c'est l'association des étudiants de culture africaine dans notre à Lyon sur le 91.5, la radio plurielle, émission Acodi Destination Tropique Destination Soleil.
L'émission Acodi accueille l'invité de la semaine.
Tout à l'heure, Ayo disait que c'était apparemment des militantes. Hein, donc,
et oui, bah parce que c'est parce que je ne sais pas pourquoi elles militent. Donc pourquoi elles,
voilà, non, des militantes, non, des militantes au sein de l'AECAL. Oui, Fatoumata, Pascal, bonsoir.
Bonsoir.
Parlez devant le micro. Hein. Voilà. Et donc, vous allez vous présenter vous-même, Fatoumata.
Bonjour, je m'appelle Fatoumata, je fais partie de l'AECAL. Comme...
Votre nom de famille, c'est vous.
Voilà. Fatoumata,
Pascal.
Pascal Eke, qui fait partie de l'AECAL aussi depuis cette année.
D'accord. Et pourquoi vous faites partie de l'AECAL, à part le fait que vous êtes étudiante, hein. Ne dites pas parce que vous êtes étudiante. Qu'est-ce qui va motiver votre
Moi,
adhésion?
Vraiment, c'est l'aspect conférence, l'idée de pouvoir rencontrer des intellectuels africains, de discuter de l'Afrique, chose qu'on n'a pas souvent l'occasion de faire dans les médias ou même dans le cadre universitaire.
En tout cas, ici, on le fait tout le temps.
C'est
pour
vrai.
Ceux qui veulent venir.
C'est vrai, mais dans les grands médias, là, à l'Afrique, on m'en parle mal.
Mais nous sommes un grand média, madame.
Ah, excusez-moi. Faut pas l'offenser. Faut faire doucement.
Non, on n'est pas du tout offensé. On remet les choses à leur place. Et donc, Pascal, tu es de quelle origine?
Togolaise.
Tu es du Togo. Ouais. Fatoumata.
Oui.
Oui. Pourquoi? La même question que Pascal.
Moi, c'était plus le fait de réunir toute l'Afrique en une seule association et de ne laisser personne de côté. Mm-hmm. Chacun a son mot à dire, donc
voilà. Est-ce que les filles, les étudiantes, ont leur mot à dire au sein de l'AECAL?
Aïe, aïe, aïe.
Oula.
Des fois, c'est compliqué.
Des fois, c'est compliqué. Pourquoi?
Bon, je crois que depuis cette année, c'est différent parce qu'il y a quand même beaucoup plus de filles que les années précédentes.
Ouais.
Mais c'est vrai que des
Mais pourquoi les filles ne militent pas? C'est parce qu'on ne leur laisse pas la place ou elles ne veulent pas adhérer?
Non, je pense qu'on laisse la place quand même aux filles.
Mais c'est que les filles qui ne veulent pas adhérer, c'est ça?
Et non, je pense qu'il y a eu des périodes où il y en avait moins, sans pour autant que les filles.
Et pour quelle raison il y en avait moins?
Ah, ça, je ne sais pas.
Fatoumata, à ton avis, pourquoi il y a moins de filles qui militent? Ouais.
Peut-être qu'elles n'osent pas.
Peut-être qu'elles n'osent
pas. Parce que c'est vrai que...
Amédou, peut-être à la réponse.
Bakary, il faut rappeler que l'AECAL a été dirigée par une fille, en fait, une Sénégalaise, Ndey, qui a assuré la présidence de l'AECAL pendant une année.
Ouais.
Donc, les femmes ont toute leur place au sein de l'AECAL.
Ouais.
Et héritier des grands hommes africains, de Thomas Sankara, qui promouvait, en fait, la promotion et l'émancipation des femmes, nous appliquons à la lettre tous ces grands principes hérités de nos grands hommes.
Encore une fois, on retombe dans les travers. J'ai posé la question aux filles et c'est Amidou qui explique.
C'est que... comme ça.
On le recadre à chaque fois.
C'était une plaisanterie. Alors, si vous êtes là, c'est pour parler de cette semaine.
Oui.
Donc, la semaine culturelle de l'AECAL. Est-ce que, Fatoumata, est-ce que tu peux nous faire découvrir cette semaine de l'AECAL qui aura lieu du 23 mars au 1er avril?
Alors, d'abord, il y a l'ouverture. Ça va se faire avec une conférence débat qui sur le thème de l'Afrique de demain et de la stratégie panafricaine. Et l'intervenant qu'on a pu avoir, c'est le grand Elika Mbokolo.
Bien sûr, qui a été cette année le président d'honneur du festival donc panafricain de Ouagadougou. Hein,
oui.
Donc c'est un grand, comme tu le dis, c'est un grand monsieur.
Un grand monsieur.
Mmh. Donc également, le thème, l'Afrique de demain et la stratégie panafricaine. Pourquoi ce choix, Pascal?
Pourquoi ce choix? Parce que bon, le panafricanisme, on en parle, mais on ne sait pas toujours forcément ce que c'est exactement. Donc là, ce sera l'occasion de pouvoir recadrer ça, de dire.
Mmh.
Et donc d'avoir une perspective future.
Et qu'est-ce que vous attendez de l'intervenant sur ce choix de la thématique?
Ah, qu'il puisse nous apporter ses lumières. C'est un homme qui a beaucoup écrit là-dessus.
Bien
sûr. Qu'il puisse nous éclairer sur sa vision du panafricanisme à l'heure actuelle.
Et ça, c'est le jour de l'ouverture, le mercredi 23 mars.
Oui, à 18h30.
Très bien. Et le lendemain?
Donc le jeudi 24 mars, on continue, donc à 20h, on aura une projection d'un film de Didier Awadi, donc militant et rappeur panafricaniste. Donc le titre du film, Le point de vue du lion, l'Afrique vue par les Africains.
D'accord. Eh bien, on connaît bien l'implication de Didier Awadi hein, pour la cause panafricaniste, comme tu viens de le souligner, mais également son militantisme et à travers ses chansons, ses compositions, etc. Et le 26.
Le 25. On a encore une conférence, débat qui va se dérouler à Grange Blanche, comme toutes les conférences.
Et toutes les conférences ont lieu à Grange Blanche. Donc les conférences dans le cadre de cette semaine.
De cette semaine-là. Mm-hmm. Oui. Ce sera toujours.
C'est où, c'est où précisément?
Ce sera à la médiathèque de la Grange Blanche. L'adresse est 10 rue Volney à
Lyon 8e. D'accord. Voilà. Et le thème, c'est quelle place pour l'Afrique dans la mondialisation?
Oui.
Donc, on a parlé de ça tout à l'heure, Amidou l'a bien précisé. Les intervenants?
Alors, on a Lazare Kizerbo. On a aussi
David. Qui est Lazare Kizerbo?
Alors, c'est un philosophe chargé de mission à l'Organisation internationale de la francophonie. Mm-hmm. On a aussi David Garibé, qui est un professeur de sciences politiques à Lyon 2. Mm-hmm. On a aussi Stéphane Doumbé-Bilé, qui est directeur du Centre du droit international à l'Université Lyon 3.
Et ils seront là pour introduire la thématique « Quelle place pour l'Afrique dans la mondialisation ?» Et nous arrivons au samedi.
Alors samedi, journée assez chargée. Alors on commence de midi à 16h, on aura une animation culturelle « Le village africain ». Mmh. Avec la possibilité de voir des jeux africains, la walé, le yoté, tambour battant, ludo, belote. À partir de 16h, une conférence, l'impact de la crise ivoirienne sur l'économie de la sous-région, avec comme intervenant Soumaïla Doumbouya. Mmh. Et on continue le soir avec une soirée conte et lecture théâtre au Kotopo. Donc voilà, l'occasion de voir
le Kotopo, pour ceux qui voudraient y aller, l'adresse?
Adresse 14 rue Léno, 69001. À l'hôtel de ville.
D'accord. Et ensuite
voilà.
Bien.
La soirée compte.
Donc 10-16h, c'est soirée compte. Ça nous amène au dimanche.
Alors, dimanche, il y a une compétition de football. On aura
un tournoi,
oui. Oui, un tournoi à partir de 9h30. Ça va se dérouler au campus de la Doha. On a comme équipe, il y a Aïkal, bien sûr, Mali, Mauritanie, Burkina Faso, Sénégal, Guinée.
Vous allez porter des shorts, les filles?
On nous interdit de jouer.
On vous interdit de jouer?
Voilà.
Amidou.
Aucune mixité.
Amidou.
Pas d'accord, Amidou.
Amidou. Pourquoi on interdit aux femmes de jouer, aux filles de jouer?
Alors, il faut repréciser les choses parce que ce n'est pas une interdiction.
Ouais.
Mais c'est plutôt un tournoi où il y aura deux catégories.
Oui.
Une catégorie.
Les hommes et les hommes, quoi.
Les hommes.
Ouais.
Ensuite, nous aurons une autre catégorie, comme ça se fait dans tous les grands championnats mondiaux. Voilà.
D'accord. La prochaine fois, il faut penser aux filles.
Non, vous savez, la mixité au sein de l'AICAL et au sein de toutes les organisations étudiantes, je pense qu'elle est visible aujourd'hui.
Pas à ce niveau-là.
Non, pas.
Tu vois, elles sont d'accord avec moi. Bien, on retrouvera. Tu es en minorité aujourd'hui, Amidou, attention.
D'accord, mon frère Badari.
êtes sur le 91.5, la radio plurielle. Nous nous retrouvons dans le studio juste après la prochaine pause sur le 91.5.
Qu'est-ce qui se passe? Mais qu'est-ce qui se passe? Oh, c'est Bakary, c'est Bakary, Bakary qui fait le show sur Radio Pluriel 91.5.
Est-ce que ça va? Ouais, ça va. Est-ce que c'est bon? Ouais, c'est bon. Est-ce que ça bouge? Ouais, ça bouge. Est-ce que ça roule? Ouais, ça roule. Est-ce que tu sens?
La diaspora, l'actualité africaine sur 91.5 avec Bakary Koudiaby sur Pluriel à Kodi. La diaspora, l'Afrique à Kodi.
Spécial le mois de la femme sur le 91.5 entre égalité et parité. Que ce que pensent les femmes migrantes? Notre consultant dans le cadre du mois de la femme, c'est Ganda Camara de la rencontre africaine pour la défense des droits de l'homme. Donc Ganda, égalité, tout à l'heure on a déjà abordé la question, mais à votre avis, qu'est-ce qu'en pensent ces femmes migrantes là? J'espère qu'en tout cas elles nous appelleront pour nous dire leur opinion. Oui, mais vous, qu'est-ce que vous pensez qu'elles pensent justement de cette parité?
Écoute, nous avons établi au niveau de la radio, de la radio diaspora en tout cas, entre la France, l'Italie et...
D'ailleurs, la semaine dernière, on a eu la représentante de la radio à Milan, en
voilà,
Italie.
Oui. Et Genève, un programme triennal sur le droit des femmes. Mmh. Et nous essayons autant que faire se peut d'accompagner les femmes à travers des ateliers pour essayer de les inciter à prendre possession de leurs droits en tant qu'être humain d'abord. Parce que nous estimons que les divertir sur des concepts de parité et autres, alors que le problème fondamental pour elles, c'est d'acquérir des droits au sein du couple, des droits dans la cité, des droits en tant que personne humaine, comme je viens de le dire. Et il y a des difficultés énormes, tant au niveau de la société, par toujours l'invocation des usages, l'invocation de la coutume, l'invocation des traditions, qui sont en complète déphasage avec les réalités qu'elles vivent. Je l'ai dit la semaine dernière, aujourd'hui, lorsqu'on regarde dans le phénomène migratoire des femmes, dans le phénomène migratoire dans son ensemble, les femmes sont en immense majorité. Et lorsqu'on voit aujourd'hui, dans le soutien familial vers le continent africain, les femmes sont au premier poste. Lorsqu'on va sur le continent africain aujourd'hui, je l'ai dit la dernière fois aussi, si le continent aujourd'hui, malgré les affres de la pauvreté, malgré les affres de la misère, malgré les affres de la malgouvernance, eh bien, ce sont les femmes qui sont au premier poste et qui font aujourd'hui que le continent africain puisse tenir debout. Ça, il ne faut jamais l'oublier. Et lorsqu'on regarde aussi de plus près, aujourd'hui, l'immense majorité des familles qui sont établies en Europe sont des familles monoparentales où des femmes entretiennent des familles à 2-3 personnes. Donc, leurs droits, en tant que citoyennes, en tant qu'êtres humains, il faudrait qu'elles le réclament et la radio, en tout cas, milite afin que les femmes accèdent à ces droits-là pour être de véritables citoyennes.
Donc, et des véritables actrices aussi.
Actrices de leur propre devenir.
La semaine dernière, c'était la journée du 8 mars, donc la journée internationale des femmes. Et donc, retour sur cette journée, puisque Léa Lankwande, journaliste dans l'émission Akodi, était au Burkina Faso et elle nous propose depuis là-bas la journée de la femme vue par les femmes cette fois-ci. C'est sur le 91.5, la radio.
Au Burkina Faso, le 8 mars revêt une importance particulière à l'occasion de la la Journée internationale de la femme, ce sont les femmes qui font la fête pendant que leur mari s'occupe des tâches ménagères. Une tradition qui prend souvent une allure de jeu, même si la symbolique de cette journée semble importante pour de nombreuses femmes africaines. Écoutez ces témoignages recueillis dans les rues de Ouagadougou au Burkina Faso.
Oui, c'est très important pour la femme parce que là, on reconnaît les compétences de la femme. Aujourd'hui, spécialement, c'est les hommes qui vont au marché. Ils font la cuisine pour les femmes. En tout cas, toutes les femmes sont contentes et puis on fait la fête.
Normalement, les hommes doivent aller au marché, s'habiller, se mettre en dame, aller au marché, acheter les condiments, venir préparer. C'est comme ça. Comme aujourd'hui, c'est notre fête aujourd'hui. Nous aussi, on doit se reposer un peu aussi, ils vont faire un peu. En tout cas, c'est une journée très, très importante.
Ça représente beaucoup sur le plan émancipation de la femme. C'est une question importante, pas surtout la fête, mais comment les gens voient la femme dans la société.
Ce sont les maris qui s'occupent de la cuisine aujourd'hui. C'est eux qui partent le marché. C'est nous qui donnons l'argent aujourd'hui. Nous aussi, nous sommes à table, on attend. Aujourd'hui, le rôle, c'est inverse. Nous sommes les maris sont les femmes aujourd'hui.
C'est les hommes qui vont masser. Les femmes ne font rien. C'est les hommes qui vont masser, préparer, faire tout quoi. La femme ne fait rien. C'est comme ça, mais demain, c'est les femmes qui travaillent maintenant.
Bon, moi, je crois que c'est surtout se regrouper entre nous, les femmes, nous donner des conseils, comment faire pour vivre mieux dans nos familles, s'occuper de nos enfants. Moi, je crois que c'est surtout ça, donner de la vie à la société.
On est là, on est content, on boit la bière, on danse, on chérit nos maris. Aujourd'hui, ils sont devenus des femmes, nous, on est devenus des hommes. Bon, ils acceptent pas, hein. C'est une demi-journée, mais ils sont même pas contents. Ils disent non, et ils ne supportent pas d'être femmes, mais on fait avec quand même.
Alors, Ganda, quand on entend ces femmes, donc moi je suis un peu frustré quand je les entends parler d'elles-mêmes la journée de la femme. Parce qu'on ne peut pas réduire l'émancipation de la femme à ne plus faire la cuisine, quoi. Parce qu'aujourd'hui, les hommes, tout le monde fait la cuisine. Mais je ne pense pas qu'aujourd'hui, la revendication du droit de la femme reste tout simplement le fait de rentrer ou ne pas rentrer dans la cuisine. Qu'est-ce que vous en pensez?
Non, ça, c'est ce qui nous interpelle là, ce qui doit interpeller tout le monde. C'est la force qu'ont les États africains à instrumentaliser la symbolique.
Ça c'est vrai.
Ouais, c'est-à-dire que voilà une journée qui existe depuis bientôt 100 ans où en Europe, des femmes se sont battues parce qu'on leur déniait le droit de pouvoir participer à la vie publique, à la vie politique dans la cité. Il y a bientôt 10 ans, à une conférence internationale en Chine, à Banjou, on demandait à ce que les femmes puissent avoir accès aux prises de décision. C'est-à-dire que là où on prend des décisions, il faut que les femmes puissent y être. On ne peut pas prendre des décisions qui concernent la moitié de l'humanité en dehors d'elles. Et voilà que sur l'ensemble du continent, ce n'est pas seulement au Burkina, c'est-à-dire que tous les pays africains ont instrumentalisé cette journée, la ridiculisant à des problèmes festifs. C'est-à-dire qu'on fait la fête, on danse, on chante, on boit de la bière et les hommes font la cuisine. Mais c'est vraiment désolant. Ouais. Mais ça, c'est les gouvernements africains qui sont responsables de cela.
Qui ont réussi à instrumentaliser.
Parce qu'ils ont la force d'instrumentaliser toute symbolique.
Bien. Heureusement qu'il y a des femmes qui ont compris le rôle qu'elles doivent jouer dans la société, en Afrique notamment, puisque la femme en Afrique, ce n'est pas généralement ce qu'on réduit. Tout à l'heure, on l'a dit, hein, Amidou notamment l'a dit sur ce plateau, c'est que, par exemple, on prend l'exemple d'Elisabeth Yakele, qui est une paysanne mariée et mère de 6 enfants, qui s'adonne aux travaux champêtres à partir desquels elle parvient à subvenir aux multiples besoins de sa famille sans nécessairement compter sur le salaire de son partenaire. On l'écoute. On écoute ce reportage depuis la République démocratique du Congo de Elisabeth Yekele.
Elle est une véritable passeuse d'espoir capable de changer son environnement par son travail. Elisabeth Yekele, une quarantaine d'années révolues. Habitant le Cambadia Ding, cette épouse d'un officier des FRDC cultive chaque année 2 à 3 hectares de champs. Son travail lui permet de répondre à tous les besoins de sa famille. Cette entrepreneuse produit chaque année 20 à 30 sacs de maïs, 50 à 60 de manioc et 5 à 7 fûts d'huile de palme. pour elles, le rendement n'est pas très satisfaisant suite à la main-d'œuvre qui coûte cher.
Je n'ai pas de tracteur, j'ai des ouvriers, mais ça coûte vraiment cher, très très cher.
Malgré toutes ses occupations, Madame Elisabeth demeure une véritable ménagère et éducatrice de ses 6 filles. Dans le quartier, les jeunes gens l'ont même surnommée Mère Louve suite à sa rigueur éducative. Mais comment s'en sort-elle?
Pour aller au champ, je vais 3 fois par semaine, 2 fois, 4 fois par semaine, mais tous les restes de jours, je m'occupe de mes enfants.
Madame Elisabeth fait preuve d'une véritable combattante dans la lutte pour la promotion de la femme congolaise.
Alors, Fatoumata et Pascal, est-ce que vous avez une réaction par rapport à ce qu'on vient d'entendre de cette femme, Elisabeth Yekele? Qu'est-ce que ça vous inspire?
Je trouve qu'elle est courageuse, mais si on revient à la journée de la femme, je trouve que c'est une journée perverse. Ouais. Elle produit pas les effets voulus, vraiment voulus par ceux qui l'ont instauré.
Qu'est-ce qu'il faudrait faire alors pour cette journée?
Je trouve qu'il faudrait même pas instaurer cette journée.
Ouais.
Ça c'est vrai.
Ouais. Pascal ?
Non, je suis tout à fait d'accord. Moi, je trouve que c'est l'occasion de parler de choses futiles, en fait. Quand on parle de la journée de la femme, c'est pour dire qu'elles doivent être belles, voilà.
Toutes les deux, qu'est-ce que vous avez fait le 8 mars dernier ?
Rien du tout.
Hein ?
Rien du tout ? Non.
Vous n'avez même pas dit aux gens que c'est ce que vous venez de dire, vous n'avez pas eu l'occasion de le dire en tout cas ?
Si, je l'ai dit à des amis, mais moi bon, aussi. Après.
Ouais. Donc pour vous, la journée de la femme, elle n'a pas son utilité, en
non,
fait.
Non, pas du tout.
Qu'est-ce qu'il faudrait faire à la place ?
Que ce soit tous les jours, la journée de la femme.
Oui, non, mais ça, oui, ça, c'est ce qu'on dit tout le temps. Ça, c'est que... Aïe.
Mais c'est exactement ça. Mais enfin, ça sert à rien d'instaurer une seule journée. C'est comme si on disait que la femme, elle est
inutile.
Voilà.
Mais finalement,
elle est utile seulement pour une journée. Quoi.
Mais finalement, est-ce qu'elle n'a pas sa raison d'être, finalement, même si elle permet de dire ce que vous voulez de dire là?
Peut-être.
Peut-être, mais dans ce cas-là, il faudrait trouver le moyen de le faire. Quoi.
Et quel moyen? Qu'est-ce qu'il faut faire pour que véritablement les choses retrouvent leur objectif? Amilou, tu as une idée?
Non, mais je pense que les femmes ont une position centrale dans la société africaine et dans la société en général. Mm-hmm. Et face à tous les défis, on sait que dans certaines sociétés, notamment les sociétés africaines, les femmes ont une place un peu marginale. Moi, je pense personnellement que les femmes doivent se battre en fait pour acquérir leurs droits. Donc on a déjà certaines icônes en fait parmi ces femmes. Nous avons Adamba Konaré qui à travers ses œuvres en fait qui a créé le musée de la femme africaine à Bamako. Donc les femmes doivent s'investir pour gagner ces droits et non pas attendre que les hommes leur cèdent la place. Ils doivent aller la chercher comme on l'a vu au Libéria avec Sir Ellen Johnson en fait. Donc c'est ce que je pense. Je pense que les femmes elles doivent se lever, se battre pour acquérir plus de droits en fait.
Donc c'est Ganda, réaction par rapport à ça?
Oui, c'est-à-dire que je crois que là, il faudrait qu'on essaie de recadrer.
Oui.
C'est-à-dire que si nous prenons nos pays, les pays dont nous tous autour de cette table, nous sommes originaires. Dans chacun de nos pays, les femmes sont majoritaires. Et lorsque nous, ensemble, nous parlons de la situation des femmes, nous parlons des femmes citadines, qui ont accédé à l'école, qui sont allés à l'université, qui sont médecins, qui sont pharmaciennes, qui sont professeurs, ainsi de suite. Voilà des femmes, les femmes auxquelles nous regardons. Mais à côté de cela, nous sommes dans des pays pauvres. Et l'immense majorité, plus les gens sont pauvres, les plus pauvres des pauvres, dans toutes les sociétés humaines, c'est les femmes. Et particulièrement dans nos sociétés. Et ce sont elles qui produisent le plus de travail. La femme qu'on vient d'entendre, je crois que lorsqu'on va en Casamance, lorsqu'on va à Tambacounda, dans toutes les régions, dans toutes les campagnes africaines, lorsqu'on y va, dans les champs, on trouve des femmes. Ce sont elles qui travaillent le plus. Ce sont elles qui supportent la maternité. Et les lois que les intellectuels, les élites comme vous et moi, nous élaborons en tant qu'hommes pour gérer la société, nous les élaborons toujours en asservissant les multitudes de femmes qui n'ont pas accès à ces soins-là. Imaginez qu'il y a des femmes qui meurent en couche aujourd'hui dans toute l'Afrique et il n'y a aucune loi qui les protège. Imaginez un seul instant qu'il y a des femmes qui, après un mariage, 4 enfants, 6 enfants, sont jetées en dehors de chez elles. Et il y en a des multitudes et chacune d'entre vous en connaît. Mais elles ne comptent pour quantité négligeable pour nous tous parce qu'elles ne font pas partie de l'élite, elles ne sont pas citadines. Voilà la réalité. Et donc, prendre le 8 mars, dire que nous allons faire l'état des lieux, ce n'est pas une journée festive, c'est-à-dire que faire l'état des lieux. Qu'est-ce que, durant toute l'année, quelles sont les actions concrètes qu'un État, que le monde, que la communauté internationale a fait en faveur des femmes pour qu'elles accèdent à plus de droits. Voilà le sens de la journée.
Je pense que le doyen Gando a bien recadré le débat, même si y a sur certains deux ou trois points, je ne suis pas tout à fait d'accord. Je pense que les femmes des campagnes ne sont pas pour autant laissées pour compte, parce que si nous voyons que dans nos États, il y a toujours des plans d'action qui sont pris en fait pour scolariser les jeunes filles qui se trouvent en fait en milieu rural. Tout ça, ce sont des œuvres. Nous avons aussi certaines conventions internationales qui protègent en fait les droits des enfants, notamment les droits des jeunes filles, ou qui luttent en fait contre les discriminations à l'égard des femmes. Toutes ces mesures sont prises, mais maintenant c'est dans la mise en œuvre, comme je suis tout à fait d'accord avec lui, que nos États n'ont pas en fait mis les moyens ou n'ont pas une volonté politique pour aider ces femmes qui souffrent dans nos campagnes, mais aussi dans nos villes, parce que il n'y a qu'une petite partie qui parmi les femmes qui ont accès à l'instruction, qui ont accès à ces hauts postes de la fonction publique. Donc ça part aussi de cela. Il faut qu'il y ait un leadership des femmes, ceux qui ont déjà réussi, qui prennent en fait le devant de cette lutte pour faire sortir toutes les autres femmes qui, du moins, n'ont pas accès à tous ces
Justement. Donc, on a une acadienne qui nous écoute, hein, qui est très fidèle sur le 91.5 et qui souhaiterait intervenir. Allô, Sabrina,
oui,
c'est ça?
Oui, bonsoir, Bakary. Oui, bonsoir à tous les auditeurs et les auditrices. Donc, je me permets d'intervenir sur la semaine de la femme. Oui. Voilà, moi, je suis maghrébine d'origine algérienne. Mm-hmm. Et on parle beaucoup d'égalité, l'égalité de la femme et l'homme. Moi, je pense que c'est plutôt un équilibre qu'on doit trouver entre la femme et l'homme. Mmh. On doit s'apporter mutuellement, on doit se soutenir mutuellement, en fait, pour évoluer dans la société. Et c'est pas parce qu'une femme fait la cuisine qu'elle est soumise. Elle peut
beaucoup
de plaisir en faisant la cuisine.
Bien sûr.
Je vous ai entendu tout à l'heure. Vous êtes intervenu à ce sujet, et puis moi, je partage votre avis. C'est vrai que...
C'est pas parce qu'on fait la cuisine qu'on n'est pas l'égal de l'homme, quoi.
Je ne résume pas les tâches de la femme à la cuisine ou vice-versa. Je veux dire, un homme peut autant prendre de plaisir à servir sa femme que l'inverse. Le tout, c'est que ce soit fait dans la bonne humeur et que ça reste un plaisir.
Bien.
Donc,
tout à l'heure, on a un peu aussi donné notre avis sur la nécessité de célébrer la journée du 8 mars. Qu'est-ce que vous en pensez, vous?
Moi, personnellement, je ne suis pas d'accord. Parce que pour moi, célébrer la journée de la femme, c'est pour moi une forme de discrimination, quelque part. Parce je pense pas qu'on ait besoin d'avoir un jour où on nous respecte. On doit nous respecter tous les jours de l'année, comme on doit respecter les hommes tous les jours de l'année. Il n'y a pas de journée de l'homme. Je ne vois pas pourquoi il y a la journée de la femme.
Est-ce que l'objectif aujourd'hui de la journée du 8 mars ne serait pas pour qu'il n'y ait plus de journée du 8 mars, finalement?
Ben moi, je préférerais, à la limite, qu'il n'y ait plus de journée du 8 mars. Mais par contre, c'est vrai qu'aujourd'hui, moi, ce que je voudrais donner comme message à mes sœurs,
oui,
qui nous écoutent, et femmes, à toutes les femmes, hein, de toute manière, et surtout les femmes d'origine africaine qui sont encore ballottées entre la tradition et la société actuelle. C'est-à-dire que moi, personnellement, je me suis mariée à l'âge de 17 ans de façon traditionnelle. C'est-à-dire qu'on m'a présenté mon époux, je n'ai pas vraiment eu mon mot à dire. De ce mariage, j'ai eu deux enfants, je suis très heureuse de les avoir eus, mais à 17 ans, vous comprendrez que j'ai pas eu le temps de passer mon bac, ni d'avoir des diplômes, et aujourd'hui, je suis divorcée, et je suis quand même obligée de travailler, et ce n'est pas une mince affaire quand on n'a pas de diplôme. Donc moi, ce que je voudrais surtout dire aux femmes qui nous écoutent aujourd'hui, qu'elles comprennent bien que se marier n'est pas forcément un Eldorado, hein. On n'est pas à l'abri, et même aujourd'hui, je veux dire, la femme est obligée de travailler pour apporter un minimum de revenus à la maison, parce qu'un salaire, malheureusement, aujourd'hui, ne suffit plus.
Bien, Sabrina, vous nous avez tendu la perche tout à l'heure, donc vous,
oui,
nous dites que vous êtes mariée à 17 ans,
oui,
et donc là, vous avez souligné le phénomène du mariage forcé en Afrique. Alors, ce que je vous,
oui,
propose, restez avec nous, on va aller au Cameroun, justement, pour,
oui,
aborder cette question, la question du mariage forcé au Cameroun, tout de suite.
L'élévation du taux des mariages forcés et précoces dans certains coins du Cameroun, à l'instar de la partie nord du pays, peut s'expliquer par des facteurs sociologiques, culturels et religieux, puisque peuplés par des groupes sociaux très ancrés dans la culture islamo-peul ou arabo-musulmane. Hortense Bouqueux est assistante sociale.
La situation des mariages précoces au Cameroun est une situation assez préoccupante, mais je crois qu'elle a beaucoup évolué. Elle est due déjà à des causes culturelles. C'est-à-dire que dans certaines régions du Cameroun, la jeune fille est envoyée en mariage très tôt. Mais c'est une situation que nous pensons parfois de violation des droits de la femme. Parce que c'est des enfants mineurs qui ne connaissent pas grand-chose sur la vie et qui sont envoyés comme ça chez des gens qui ne sont pas toujours bien intentionnés. Donc pour moi, c'est une situation de violation des droits de la femme. Et je pense que tous les parents doivent être sensibilisés afin de limiter, sinon de faire disparaître cette situation.
Plein de conséquences inhérentes à la santé maternelle et aux droits sexuels des femmes et des filles découlent de ces pratiques qui sont encouragés malheureusement par un système patriarcal érigé en institution et où le père a toute l'autorité sur la famille. Et de ce fait, en fonction de ses intérêts personnels, avec la famille demanderesse, le père donne sa fille en mariage sans que celle-ci ne puisse émettre son avis. Adrien Dieudonné Bilon est sociologue.
Dans le Septentrion, on trouve qu'aller en mariage à 15 ans, 12 ans, c'est quelque chose de normal. Ça fait partie des mœurs et des traditions de ce coin. Mais vers le sud, ça équivaut à 18 ans, 19 ans. Parce que si nos mariages ici sont liés au rapport entre les parents qui se décident à faire partie d'une fille en mariage sans son consentement. Et ce qui fait que ça devient un peu plus difficile parce que chez nous, on se dit toujours que c'est mon enfant. Et l'arrangement se passe entre deux familles qui l'acceptent et qui le trouvent normal. C'est pas l'État même qu'on doit interpeller, c'est beaucoup plus notre éducation, nos parents, pour pouvoir laisser peut-être les femmes avoir une certaine liberté au niveau du mariage et aussi que le phénomène même amour plus existait, puisque ces mariages-là ne se font pas beaucoup plus dans un élan où deux jeunes personnes se sont rencontrées et s'aiment et se décident à se marier. C'est toujours sur l'autorité parentale que ça se passe. Et moi, je me dis toujours une chose, c'est que c'est nos parents et aussi la misère, parce que certains se disent qu'en faisant partie déjà une femme d'une façon précoce en mariage, ça l'amène à enlever celle-là dans son calepin au sein de sa famille.
Malgré les conséquences, l'éradication à travers la conscientisation et la sensibilisation tarde à prendre véritablement corps pour que l'éducation et le respect des droits fondamentaux de la jeune fille soient défendus avec la plus grande attention. Yaoundé, Jules Lobo.
Alors Sabrina, on a écouté le cas de mariage forcé au Cameroun. Est-ce que c'est votre cas à vous aussi?
Alors, mariage arrangé ne veut pas forcément dire mariage forcé, Bakary.
D'accord.
Mariage arrangé, ça peut très bien fonctionner. Moi, j'ai des cousines qui se sont mariées de cette façon-là et qui sont toujours avec leurs époux et qui s'entendent bien, qui ont appris à s'aimer, à se connaître et qui ont eu des beaux enfants. Et je leur souhaite tout le bonheur du monde. Et je ne pense pas que ce soit un mariage, ça peut éventuellement aboutir aussi positivement. Moi, je pense que, dans un premier temps, il faudrait que la femme, elle comprenne quand même que, avant de se marier, il faut aussi avoir un minimum de bagages. On ne sait jamais ce qui peut arriver dans la vie, être un minimum prévoyant. Et moi, je pense qu'en tant que parent, on a la responsabilité de transmettre un minimum d'éducation et donner un minimum de bagages à nos enfants, surtout dans la société actuelle. Voilà. Et
est-ce que excusez-moi de vous poser cette question, oui. Merci de répondre. Vos enfants, est-ce que vous avez des filles ou oui?
Moi, j'ai une fille qui a 12 ans et un garçon qui a 5 ans.
Est-ce que votre fille de 12 ans, est-ce que ça vous arrive de discuter avec elle sur justement cette problématique de mariage forcé?
Ah, mais elle connaît très bien ma position. Elle sait que j'espère pour elle qu'elle prendra, elle, son temps pour faire ses études. J'y tiens, qu'elle ait son permis de conduire, qu'elle soit autonome et qu'elle choisisse son mari qu'elle choisisse, qu'elle soit maître de sa vie. Moi, je suis là pour l'écouter, pour la guider éventuellement si elle veut bien m'écouter. Mais je pense que, de toute manière, maintenant ça devient de plus en plus rare, du moins je l'espère. Mais malheureusement, dans certains pays encore, c'est encore très pratiqué. Moi, je parle surtout pour les gens qui sont nés en France et qui sont encore mariés de cette façon-là. Il faut qu'ils comprennent qu'aujourd'hui, c'est plus possible, que la société actuelle ne pardonne pas un écart.
Sabrina, est-ce qu'aujourd'hui, avec le recul, vous en voulez toujours à vos parents?
comment dire, je ne leur en veux pas parce que malheureusement, ils sont déjà très malheureux de me voir dans cette situation. Parce que, bon, comme je vous l'ai dit, ça a été un échec. Le papa ne verse pas de pension alimentaire, rien du tout. Donc, je veux dire, voilà, après, malheureusement, ils voient que sa fille, que leur fille galère. Et ils comprennent, mais un peu trop tard, malheureusement, que c'était une erreur. Mais que cette erreur serve aux autres. Voilà, c'est pour ça que j'étais mieux à témoigner ce soir. C'est-à-dire que bon, il ne faut pas que ça se répète, ce genre de situation. Et c'est vrai que bon, j'en ai un petit peu voulu au départ à mes parents, mais aujourd'hui, c'était mon destin, je l'ai accepté, j'adore mes enfants. Et puis finalement, c'était une expérience qui m'a endurcie. Et puis voilà, je veux dire, ce qui nous tue pas nous rend fort. Donc voilà, moi je l'accepte. Et puis la vie n'est pas finie, Bakary. J'ai 32 ans.
Eh bien, merci. Et on va finir avec cette belle note donc de votre intervention. La vie n'est pas finie. En tout cas, pour vous, c'est une source de motivation pour vous voilà. Battre pour vous et pour vos enfants.
Ben moi, je souhaite surtout à toutes les femmes qui nous écoutent de trouver leur prince charmant, mais surtout. Il faut avoir des bagages, passez vos diplômes, voilà, soyez autonome, c'est le plus important. Après, vous allez voir, l'amour, ça suit, il n'y a pas de souci.
On a bien sûr des étudiantes sur le plateau et je pense que le message que vous lancez leur parle. Merci beaucoup, Sabrina.
J'espère bien, en tout cas. Bonne soirée, Bakary.
Merci et bonne écoute sur le 91.5. Alors,